Tout ce qu'on désire, dernière version du plaisir, une tablette, un téléphone, on est content comme personne.
Bonjour à tous. Alors, on a tous été dans cette situation-là. Votre frigo, votre machine à laver, votre ordinateur, il y a tout qui claque en une journée. Et bien évidemment, c'est le dimanche. Quoi de mieux ? Vous essayez d'aller ramener vos produits pour les faire réparer, et là, le fabricant vous dit que le prix de la réparation coûtera aussi cher que d'en acheter un nouveau. En plus, il y a tous vos amis qui vous parlent du dernier smartphone. Il est trop bien et qui vend tous ses nouveaux avantages. Vous êtes prêt à l'acheter. Vous craquez. On a tous été dans cette situation-là. Et ça, est-ce vraiment intéressant comme système ? Autant pour nous en tant que consommateurs que pour la planète. Vraiment, c'est une vraie question. Vous l'avez compris, je pense, on va parler d'obsolescence programmée. Ce n'est pas un sujet qui parle forcément de numérique. Mais dans cette émission, je vais vous parler de ce que c'est, de son histoire. Et oui, ce n'est pas nouveau et ça ne va pas s'arrangeant. Enfin, peut-être que si. Ce sujet, qui est vieux comme le monde, qui remet en question notre système économique, notre environnement et notre mode de consommation. C'est parti.
Impact. D. Le podcast qui vous sensibilise à l'éco-responsabilité digitale et au numérique responsable.
La première question à se poser déjà, mais qu'est-ce que l'obsolescence programmée ? Or déjà, l'obsolescence, ça vient d'obsolète. Un objet obsolète est un objet qui n'est plus d'usage, qui est ancien. Mais ce n'est pas forcément un objet qui ne fonctionne plus. S'il y a une petite nuance. L'obsolescence programmée est donc un objet que l'on rend obsolète. Ancien, après un laps de temps qu'on a défini, enfin, que l'entreprise a défini, bien évidemment. C'est une stratégie qui vise à réduire la durée de vie d'un produit pour augmenter son taux de remplacement et du coup provoquer un nouvel achat prématurément. Ce concept a été créé en 1954 par Brooks Stevenson, qui est un designer industriel américain qui disait « C'est inculquer à l'acheteur le désir de posséder quelque chose d'un peu plus récent, un peu meilleur et un peu plus tôt de ce qui est nécessaire. » Alors, cette petite phrase, est-ce qu'elle vous fait penser à des objets ? Ces pratiques sont mises en place de façon plus ou moins consciente et concertée, en fait. Elles sont souvent quand même dénoncées par les associations environnementales, comme HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Ces stratégies de croissance qui sont fondées sur une surconsommation sont aujourd'hui quand même fortement remises en cause, dû justement aux problématiques environnementales et économiques. Bah oui, créer des objets veut dire prendre des ressources. Cette forte accélération de l'innovation technologique, les produits, en fait, sont devenus toujours plus performants, mais également moins résistants et plus rapidement renouvelés. Le taux de renouvellement. L'ADEME a différencié différentes sortes d'obsolescence programmée. Alors déjà, dans un premier cas, nous avons l'obsolescence fonctionnelle, dite technique. Donc, il y en a différentes. Alors, l'obsolescence de fonctionnement, qu'en fait, un produit arrête de fonctionner, tout bêtement. Ou l'entreprise ne peut pas assurer, en fait, sa fonction correctement à cause d'un défaut technique intrinsèque. Donc, par exemple, le téléviseur avec le condensateur qui grille. Nous avons l'obsolescence indirecte, lorsqu'un produit ne peut pas être utilisé à cause d'un accessoire qui est devenu défectueux. Donc, est non réparable, non remplaçable. Le téléphone, par exemple, qui devient obsolète à cause d'un chargeur qui n'est plus à la vente. Nous avons l'obsolescence d'incompatibilité. Donc là, c'est lorsque le produit n'est pas adaptable aux évolutions techniques. Donc, par exemple, un matériel informatique qui n'est plus compatible avec les nouveaux systèmes d'exploitation. Et le dernier, c'est l'obsolescence du service après-vente. Donc là, un produit qui ne peut pas réparer faute du système pour le réparer, ou un prix trop prohibitif par rapport à un produit neuf. Par exemple, on achète une machine à laver 300 euros et on vous la fait réparer pour 350 euros. Ça vaut pas vraiment le coup. Et c'est notamment le cas lorsque le fabricant, en fait, n'a pas forcément prévu le service après-vente de ses produits. Et la deuxième sorte d'obsolescence, c'est l'obsolescence psychologique, qui est là, c'est souvent lié à un désir et à la mode, en fait. Donc ça, c'est mis en avant par le marketing. Le mauvais point du marketing, malheureusement. Après ce petit tour d'horizon sur l'obsolescence programmée, on va faire un petit retour en arrière, un petit historique. En fait, dès 1925, Stuart Chase avait anticipé le 20e siècle, avec la tragédie des déchets. C'est un économiste et un ingénieur américain qui était formé au MIT et qui était le conseiller du président Roosevelt, mais était également visionnaire en décrivant l'obsolescence programmée, qui était à l'époque juste un concept. À l'époque, la publicité était trompeuse et toute la puissante consommation symbolisait le siècle dernier et du coup notre siècle actuel. Le concept a été nommé pour la première fois en 1932 par Bernard London, qui était un promoteur américain. Il a défendu le concept de obsolescence légale, en fait, imposé par le gouvernement pour les biens de consommation. C'est dans le but, en fait, de stimuler et de maintenir la consommation. Cette Amérique était après le crash de 1929. Et à cette époque, il n'avait aucune contrainte environnementale. L'objectif était surtout de maintenir l'industrie et les croissances. Cependant, l'obsolescence programmée n'a jamais été imposée de façon légale parce qu'elle n'a pas trouvé d'écho en fait en politique à l'époque. Dans la même décennie, on a Lewis Mumford qui décrit et dénonce les méfaits techniques de l'obsolescence programmée. Cet historien, qui est américain, est spécialiste des technologies et le premier en fait à décrire techniquement le phénomène d'obsolescence programmée et à le dénoncer. Selon lui, l'augmentation constante et sans limite de la production, en poussant un remplacement prématuré des biens, va à l'encontre de, je cite, « la perfection technique, la durabilité, l'efficacité sociale et globalement de la satisfaction humaine ». À cette époque-là, il n'avait pas encore la dimension environnementale. Entre-temps, nous avons Joseph Schumpeter en 1942 qui invente la destruction créatrice. Schumpeter est un grand économiste du siècle dernier. Il est largement connu pour ses théories économiques, notamment sur l'innovation qu'il décrit comme à la fois source de croissance et facteur de crise. Le phénomène de destruction créatrice que Schumpeter utilise pour la première fois écrit dans son ouvrage « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Ce livre pose les fondements du modèle économique capitaliste fondé sur l'obsolescence programmée. Quand on vous dit que c'est vraiment un des fondements de notre société capitaliste, c'est que les économistes de cette époque se sont vraiment penchés sur les soi-disant bienfaits de cette méthode. Mais de nombreuses personnes ont commencé à se poser des questions sur les limites de ce système depuis les années 50. Et oui, les hommes sont plus rapides à mettre en place des systèmes malsains, mais ils sont très longs à les détendre pour les enlever. Parce que cette question est encore et toujours d'actualité aujourd'hui. Dans les personnes qui dénoncent, nous avons John Keynes, qui dénonce en fait ouvertement les phénomènes de l'obsolescence programmée et qui engage la réflexion dans le monde universitaire américain, puis européen, sur ses pratiques qui est industrielle dans son livre « La société d'abondance ». En 1960, nous avons le journaliste Vance Packer, qui est l'un des premiers à alerter sur les problématiques éthiques de l'obsolescence. Dans son livre « The Waste Maker, les fabricants de déchets », il dénonce ce système qui impose la surproduction de déchets, la dépendance à la dette et la déconnexion sociale des individus. Il a également établi la distinction entre deux types d'obsolescence, en fait, donc c'est lui qui les a fait. Après, nous avons l'ouvrage de Gilles Slade, qui est publié en 2007, en fait, qui replace l'obsolescence et l'accumulation de déchets au cœur de l'histoire des États-Unis. Et selon lui, en fait, l'invention des marques et de la publicité a joué un rôle crucial dans le développement de la société de consommation, en fait. Puis, nous avons l'économiste français, qui est Serge Latouche, qui est connu en fait pour ses prises de position en faveur de la décroissance, qui a sorti en 2012 l'ouvrage « Bon pour la casse, les déraisons de l'obsolescence programmée », qui décrit en fait les origines et souligne la conséquence du phénomène d'obsolescence programmée. Et oui, ce sujet n'est pas nouveau. Je vais vous donner quelques exemples d'obsolescence programmée qui est à travers l'histoire. Donc il y a certains qui sont connus, d'autres un peu moins, bien évidemment. Donc dans les années 20, on connaît tous la célèbre Ford T, qui était une voiture qui était robuste, qui était facile à réparer à l'époque. Et nous avons eu ce géant américain, qui est General Motors, qui a réussi à détrôner cette célèbre voiture. Ce géant a créé en fait une stratégie de renouvellement rapide de ses gammes Chevrolet. En fait, il changeait la couleur, il changeait les formes, les accessoires, etc. Et grâce à la publicité, en fait, les consommateurs étaient incités à changer plus souvent de voiture. General Motors est donc le premier à créer l'obsolescence psychologique par le design et l'esthétisme des biens de consommation. On a tous déjà entendu parler de cette ampoule qui éclaire depuis 1901 aux États-Unis dans la caserne de pompiers. Ce cas aussi est un cas d'obsolescence programmée. Phoebus, en fait, était le cartel qui rassemblait les fabricants tels que Philips, Onstran et General Electric. Ils ont tenté de contrôler la fabrication des lampes à incandescence entre 1924 et 1939. Leur but était bien évidemment d'augmenter leurs ventes. Ces constructeurs, ils ont limité la durée de vie de ces ampoules à seulement 1000 heures. Sympa, dis donc. À toutes les femmes, on a tous déjà vécu cette situation avec les collants qui s'effilochent dès la première journée. Ces collants sont devenus du jetable. Dans les années 40, c'est le chimiste américain DuPont qui avait trouvé la recette miracle pour des collants hyper résistants. Ce produit résistant fait un vif succès, ce qui est logique, on sortait des collants le soir à l'époque. Mais l'entreprise ne faisait pas assez de bénéfices, et donc, ils ont délibérément choisi de changer la formule pour réduire la résistance de ces collants, et donc, augmenter le renouvellement. Eux, je les hais profondément. Pour ce quatrième exemple, nous avons les imprimantes Epson. Ça, c'est un exemple de ma jeunesse. Elles sont emblématiques de l'obsolescence programmée. Certains de ces matériels auraient été équipés d'une puce qui bloque en fait l'impression au-delà d'un certain nombre de feuilles imprimées. Les cartouches d'encre peuvent également indiquer un niveau d'encre incorrect, ce qui a amené l'utilisateur à acheter ces cartouches contenant encore de l'encre. Ces pratiques sont interdites quand même en Europe, mais vu que c'était pratiqué aux États-Unis, on peut se poser la question si ça n'a pas traversé l'océan. Et le dernier exemple, là ils se sont fait condamner il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Apple, qui est lui distingué par des innovations de rupture et un renouvellement qui est quand même très rapide de ses produits depuis quelques années. Les batteries sont également indémontables, il y a l'impossibilité de mettre à jour le système d'exploitation entre les modèles et les accessoires qui changent à chaque génération. Bref, Apple s'est quand même souvent distingué par l'obsolescence très rapide de ses produits, qui pose quand même un vrai problème aujourd'hui. Mais pourquoi l'obsolescence programmée pose-t-elle tant de problèmes que ça aujourd'hui ? C'est vrai. Alors, quels sont les enjeux ? Les enjeux déjà environnementaux. L'obsolescence programmée engendre des enjeux environnementaux qui sont majeurs à l'échelle de la planète. L'accumulation des déchets, notamment des déchets d'équipements électroniques et électriques, qui est les DEEE, entraîne des graves pollutions dans les pays du Sud et les ressources naturelles s'épuisent de façon accélérée. La surproduction des déchets liés à l'obsolescence rapide des biens de consommation engendre quand même des coûts importants, mais également des pollutions lourdes dans les pays en voie de développement, où ils sont exportés. Bah oui, on va pas garder les déchets chez nous, hein. Même s'il y a une convention internationale de Bâle qui interdit pourtant toute exportation de déchets électroniques des pays membres de l'OCDE vers les pays non membres. Mais cette loi n'est pas forcément respectée aujourd'hui. L'obsolescence programmée dit également renouvellement du matériel, et donc exploitation massive des ressources naturelles, qui s'est fortement accélérée ces dernières années, notamment avec l'extraction des terres et des minerais rares qui sont utilisés dans les équipements électroniques. Je vous parlerai de ce thème très prochainement. Mais il y a également les enjeux économiques. L'obsolescence programmée, c'est quand même super intéressant pour les entreprises. C'est pour cela que le concept a été quand même créé à la base. Les entreprises forcent indirectement les consommateurs à changer de matériel plus rapidement parce qu'il faut bien faire tourner les chaînes de production. Sinon, il y aura moins d'emplois. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Malheureusement, ce n'est pas forcément très intéressant pour nous consommateurs. Bah oui. Et oui, on est donc obligé de consommer dès que notre appareil ne fonctionne plus, d'en racheter un nouveau, et la boucle continue, c'est un cercle vicieux en fait. Je vous ai présenté ce que c'était l'obsolescence programmée. Si je peux vous donner une petite astuce quand même pour pouvoir faire réparer mon ordinateur, etc., c'est quand même de ne pas hésiter à mettre le prix de base. Parce que plus un ordinateur est quand même plus cher, plus le matériel et les composantes qui sont à l'intérieur sont solides. C'est pas toujours vrai partout, hein. On va partir pour les vêtements, par exemple. C'est pas parce que c'est cher et que c'est de la grosse marque que c'est forcément de la qualité. Merci à tous pour votre écoute sur ce thème qui est l'obsolescence programmée, qui est le thème pour le mois de mars. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous attends pour la prochaine émission qui sortira le 18 mars et ça sera l'interview d'une société lyonnaise qui lutte contre l'obsolescence programmée de nos ordinateurs. Je vous dis à bientôt et je vous dis à dans 15 jours. Salut!
Tout ce qu'on désire, dernière version du plaisir, une tablette, un téléphone. On est content comme personne. Tout ce qu'on n'a pas et qui nous tend les bras. Des belles filles, des gadgets qu'on vénère et puis qu'on jette. Puis qu'on oublie quand la mode elle est finie. Trouver la dernière tendance, la nouvelle. Ce qu'on s'aime, des étreintes et des je t'aime, noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons. Tout ce qu'on vit au jour le jour, la nuit, attiré par la lumière, des panneaux publicitaires. Tout ce qu'on endure, on veut panser ses blessures à coups de shopping, marre de lécher les vitrines. Tout ce qu'on cache, des pansements qui se détachent.
On croit guérir
à coups de petits plaisirs.
Tout ce qu'on sème, des étreintes et des je t'aime, noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons. Tout ce qu'on vit au jour le jour, la nuit, attiré par la lumière, des panneaux publicitaires.
Tout ce qu'on achète, obsolète, tout comme le monde disparaît en une seconde.
Qu'on nous met sous le nez,
des bagnoles étincelantes, des étoiles filantes. On court après des inventions, des objets du dernier cri. Comme c'est jamais fini. Tout ce qu'on n'a pas,
tout ce qu'on a
si
pas,
on l'a pas, ça va pas.
Si on l'a pas, ça va pas.
De l'inutile, du vide, du futile, on est avide.
Tout ce qu'on sème, des étreintes et des je t'aime, noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons. Tout ce qu'on vit au jour le jour, la nuit, attiré par la lumière, des panneaux publicitaires.
Qu'on achète obsolète, tout comme le monde disparaît en une seconde. Tout ce qu'on nous met sous le nez, des
bagnole étincelante, des étoiles filantes. Ce qu'on sème, des étreintes et des je t'aime, noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons. Tout ce qu'on vit au jour le jour, la nuit, attiré par la lumière des panneaux publicitaires. Tout ce qu'on sème, des étreintes et des je t'aime, noyés dans les rayons, les cartons.